Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comment retrouver le silence dans un monde de bruit permanent? Le bruit qui fracasse nos tympans, percute nos organismes, épuise nos psychismes et peut nous rendre malades. Circulation routière, trafic aérien, voisinage bruyant, appareils ménagers, sonneries et bips de téléphone, sirènes de police ou d'ambulance, usage intensif de nos écouteurs, notre environnement sonore dépasse très souvent les seuils admis par l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année en Europe, environ 10 000 décès prématurés seraient liés à la pollution sonore. Cette pollution sonore qui stresse notre organisme de façon chronique et qui affecte le bon fonctionnement de notre cerveau. Le bruit qui empêche notre encéphale de bien se régénérer. Vous verrez ce matin qu'il est absolument essentiel de recouvrer des plages de silence pour lui permettre de mieux fonctionner. Vous comprendrez ce matin pourquoi le silence est d'or et que des trésors sont à portée de notre main. À votre écoute ce matin, nos experts qui éclaireront notre lanterne avec la complicité du mensuel Cerveau et Psycho. Nous attendons vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin et romancier qui a mis sa chemise de bûcheron ce matin.
Canadien.
Voilà, quel est le menu de votre chronique? Alors voilà.
On va parler des cadeaux de fin d'année offerts par les patients aux soignants.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Jean, j'arrive pas à dormir.
Mais pourquoi?
Bah écoute.
J'entends rien.
Bah justement, ça me déprime.
Ça te déprime?
Ouais.
La montagne, le plein air, ça te déprime? T'aimes plus ça?
Je trouve qu'on s'entend dormir, tu vois.
Ouais, oui, je vois, oui, d'accord. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu oppressant, ce silence-là, oui.
Ouais.
Oui.
Oh, si seulement on pouvait dormir juste une nuit dans une bonne grande ville.
Ouais, avec un bel embouteillage.
Ouais.
Oui.
Avec des travaux.
Oui.
Des travaux.
T'aimerais ça?
Ah ouais.
Ouais? Ne me quitte pas. J'avais tout prévu.
C'est pas vrai.
Écoute-moi ça. Mozart.
Merci, Léon.
Extrait d'un gars et une fille avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Bonjour Jean-Luc Puel, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en neurosciences, chef d'équipe à l'INSERM, enseignant à l'Université de Montpellier. Vous êtes président de la JNA, la Journée Nationale de l'Audition. Bonjour Charles Wright.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et écrivain, vous êtes l'auteur d'un récit très remarqué, publié chez Flammarion, Le Chemin des Estives. Bonjour Emmanuel Thibier.
Bonjour Ali.
Vous êtes acousticien au pôle aménagement ville et territoire de l'ADEME. Rappelez-nous en deux mots ce qu'est l'ADEME.
Alors l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique qui travaille essentiellement sur la lutte contre le réchauffement climatique, mais pas uniquement. L'ADEME travaille aussi sur d'autres thématiques, dont le bruit.
Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Neuroscientifique de formation, rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho consacré aux bienfaits du bruit. Charles Wright, un jour vous en avez eu marre. Trop de bruit, trop de discours. Vous étiez aspirant jésuite et vous décidez de prendre votre bâton de marche, de voyager sans argent et de vous immerger dans une France silencieuse, précisément dans le Massif central, en parcourant le GR4 d'ouest en est, une sorte de fugue pour échapper au fracas sonore des villes.
Oui, exactement. Mais je crois, comme beaucoup de nos contemporains, je faisais une overdose du bruit, vous l'avez dit, des écrans, de la société, du commentaire. J'avais besoin vraiment de me laver les oreilles dans le silence et de me dégager un peu de l'éphémère. Et donc, j'ai disparu dans cette immense réserve d'intériorité et de silence qui s'appelle le Massif central, qui est ce paradis préservé du flux, préservé de l'agitation. Pendant un mois.
Vous recherchiez donc des oasis de silence. Il reste encore dans notre pays des endroits pour prendre la tangente loin du bruit. Je vous cite Charles Wright, le monde actuel a beau être quadrillé, il existe heureusement des échappatoires pour se soustraire au credo de l'époque, la connexion, l'accélération, l'accumulation des objets. Et j'ajouterai de la pollution sonore.
Oui, exactement, mais il y en a partout en fait. Il suffit de s'enfoncer. Tous les Français ont une forêt pas trop loin de chez eux. Il suffit d'éteindre son téléphone portable et d'avoir le courage d'affronter le silence, parce que le silence fait peur, parce que c'est à mon avis le lieu de la confrontation avec l'essentiel, avec soi-même. Et puis, quand on se tait, quand on éteint, quand on coupe avec le bruit, la première chose qui remonte, c'est, faut pas se raconter d'histoire, hein, c'est son, sa ménagerie intérieure, vous voyez, tous ces démons. Donc, on a tendance à avoir un peu peur de cela, mais je crois qu'il faut avoir le courage de plonger dans le silence, parce qu'il y a des trésors qui s'y cachent.
Emmanuel Thibier, l'Organisation Mondiale de la Santé place la pollution sonore au deuxième rang des facteurs de risque pour l'environnement, juste derrière la pollution atmosphérique. Mais j'ai l'impression qu'on s'accommode de cette pollution sonore, on s'y habitue.
Non, on s'y habitue d'une façon consciente, mais inconsciemment, le bruit, j'allais dire, nous ronge, surtout lorsqu'il est modéré, nous ronge un petit peu tous les jours, même si on a l'impression de s'habituer, en fait, le corps encaisse cette nuisance et cette charge, en fait.
On s'habitue à ces bruits désagréables, Jean-Luc Puel. Nous, au bureau, par exemple, on est au sixième étage de la Maison de la Radio, qui donne sur l'avenue de Versailles, un trafic routier très très dense, et on s'habitue. On s'habitue à ce bruit permanent de trafic routier, même si on ressent une gêne, tous dans le bureau, on s'habitue.
Je ne sais pas si on peut dire qu'on s'habitue, je pense pas. La capacité du cerveau, c'est de filtrer les sons non pertinents. Heureusement, c'est parce que si vous entendiez tous les bruits qu'il y a autour de vous, de manière consciente, vous pourriez pas gérer. Et ça, donc, pour être attentif sur une seule source sonore, ça demande une charge cognitive très, très, très importante. Donc, est-ce qu'on s'habitue? Non. Est-ce que c'est simple? Non, c'est très fatigant de vivre dans le bruit.
Sébastien Boller.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Allez, on s'habitue, c'est-à-dire que moi, il y a une expérience qui m'amuse toujours, c'est qu'on vous êtes dans une pièce et puis il y a un frigo qui ronronne. Et puis d'un seul coup, il s'arrête et là, vous dites, ah tiens, il y avait le frigo. C'est-à-dire que vous l'aviez oublié. C'est ça qui
se
passe.
C'est dans ce sens-là.
C'est dans ce sens-là qu'on filtre, effectivement, et qu'on se rend plus compte sur un mode conscient. Mais c'est vrai, ce que disait Charles Wright et ce que vous disiez aussi, c'est que inconsciemment, enfin de manière automatique, l'effet de ce bruit de fond sonore existe quand même. C'est pas parce qu'on n'y fait plus attention qu'il n'a pas des effets. Et il agit notamment sur un axe neuronal et endocrinien qui est responsable de la libération d'hormones du stress, qui s'appelle l'axe hypophyso. Hypothalamo surrénalien, qui libère des hormones du stress comme le cortisol, comme la noradrénaline, et qui fait qu'à long terme, même si on n'y fait pas attention, il y a quand même un effet de fond sur l'organisme, à la fois sur les niveaux de stress, et puis y compris sur la capacité des neurones à établir de nouvelles connexions, puisque ça dépend quand même aussi de l'état de stress qu'on encaisse de façon chronique. Donc c'est en ce sens-là qu'il faut quand même se méfier. C'est pas parce qu'on remarque plus l'avenue de Versailles ou le frigo que notre organisme et notre cerveau n'en subit pas à long terme des conséquences.
Jean-Luc Puel.
Oui, ce qu'il faut comprendre, si on replace un peu le bruit dans le contexte préhistorique, je dirais, on a la même oreille et le même cerveau, grosso modo, que l'homme de Cro-Magnon, voilà. Le bruit au niveau physiologique, c'est une alarme, pour Cro-Magnon. Dès qu'il entend du bruit, ça éveille sa conscience. Il va falloir qu'il réagisse, qu'il parte, qu'il lutte, etc. Donc le bruit, c'est toujours un excitant. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ce que disait très justement Stéphane,
Sébastien,
c'est que évidemment, ça met en branle tout le système du stress, donc avec la libération d'hormones, adrénaline, etc., etc. Et on a vraiment, quand on vit dans le bruit, on a un taux de catécholamine, de cortisol, etc., etc., très élevé. On a vraiment tous les symptômes du stress qu'on décrit par ailleurs dans des situations, par exemple, psychologiques.
Baptiste Beaulieu.
Oui, je pense qu'il faut... en fait, c'est tout simplement physiologique dans le sens où on a le bruit qui vient au pavillon de l'oreille, qui passe au niveau du conduit auditif externe, qui tape la membrane du tympan, qui ensuite tape les osselets, qui vont taper l'oreille interne, qui va créer des potentiels évoqués. Tout ça, c'est une neurostimulation, et toute neurostimulation est une excitation. Et donc, chaque bruit est un stress, finalement. Et ce qui est important de rappeler, c'est que dans la journée, on peut fermer les yeux quand on veut couper cette stimulation visuelle. On ne peut pas fermer nos oreilles.
Il n'y a pas de paupières aux oreilles.
Non, il n'y a pas de paupières aux oreilles.
L'un des grands bienfaits du premier confinement, Sébastien Boller, c'était la qualité de silence qui a émergé et qui a été bénéfique pour nombre d'entre nous.
Ah oui, il y a eu beaucoup de témoignages en ce sens. Alors, il y a deux types de témoignages. Il y a aussi des témoignages comme ceux qu'on entendait dans l'extrait
d'un gars de fille.
C'est qu'il y a des personnes qui, confrontées brusquement au silence, sont confrontées à quelque chose d'étrange, de nouveau, presque d'effrayant, de dérangeant. Donc, c'est intéressant de constater ces deux types de réactions. Mais bien souvent, c'est vrai que on renoue d'un seul coup avec d'autres rythmes de vie, une baisse du stress, une capacité à mieux savourer aussi les petits bruits discrets, parce qu'il y a un recalage de la ligne de base de la sensorialité qui fait qu'on redevient capable de détecter des sons plus discrets, le chant d'un oiseau, des choses toutes bêtes comme un couvercle de confiture qu'on ouvre, ça fait fonctionner aussi d'autres zones du cerveau dont on reparlera peut-être, la capacité à partir ensuite sur des vagabondages mentaux, puisque ça permet à ce fameux réseau du mode par défaut, réseau du mode de vagabondage mental, de se réactiver.
Charles Wright, qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers temps de votre immersion dans ce bain de silence dans le Massif Central? Racontez-nous un petit peu ce que vous avez ressenti dans les premiers temps, vous qui étiez un enfant des villes. Racontez-nous.
Ah ben c'est un bienfait qui est quasiment immédiat. Le silence est un médicament. C'est quelque chose qui nous permet d'accéder, à mon avis, à mon sens, à nos ressources les plus profondes, à nos ressources intérieures. C'est le grand révélateur de nos profondeurs intérieures. Et puis c'est aussi, à mon avis, le grand révélateur des profondeurs du monde. Je sais plus qui disait, j'ai pas retenu les prénoms, disait que on se met à réécouter des petits bruits. Jean Kelevitch, il parle des coulisses du silence. Voilà, que quand on fait silence, il y a tout un nombre de bruits qui se réveillent, qui étaient endormis dans les coulisses du silence et qu'on n'entendait pas. Donc ça peut être effectivement tout le bruissement du monde. Voilà, il y a tout un monde qui se réveille et c'est un enchantement des sens.
Qu'est-ce que le silence pour un acousticien, Emmanuel Thibier? Le silence est la sieste du bruit, disait ce bon vieux José Arthur. Et pour l'acousticien que vous êtes, qu'est-ce que c'est?
Ben José Arthur avait sans doute raison, mais le silence, c'est un niveau sonore suffisamment bas. Moi, j'ai envie de dire, le silence n'existe pas. Plus on baisse le niveau de bruit, et puis plus on entend des petites choses. Et puis si on est dans un laboratoire, dans des chambres acoustiques, dans lequel on arrive à obtenir des niveaux de bruit très 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 bas, et ben qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce genre de situation? Ben on entend finalement son propre corps, on entend les bruits de son cœur, les bruits de sa respiration, le bruit des vêtements, tous ces petits bruissements, on peut les entendre, mais au-dessous d'un certain niveau, on peut appeler ça le silence.
Charles Wright, votre définition du silence?
Oui, ben je consonne à ce qu'il vient de dire. Je crois que le silence, c'est pas l'absence de parole, c'est-à-dire c'est pas la suppression du discours, parce que il y a des paroles qui sont pleines de silence et il y a des paroles qui conduisent au silence. Je crois que c'est pas non plus l'absence de son, parce que de fait le bruissement du monde ne s'arrête jamais, même au fond d'une forêt, même au fond du cloître d'un monastère, il y a des bruits. Je crois que c'est autre chose. Moi, je suis pas acousticien, je suis un écrivain qui fréquente le silence. Je crois que c'est un état de calme, c'est un état d'attention, de transparence, peut-être une certaine qualité de présence à soi, aux autres et au monde. C'est comme ça que je définirais le silence.
Jean-Luc Puel, pourquoi certains bruits nous sont agréables et d'autres désagréables? Pourquoi le bruit des talons au-dessus de chez soi agace et pourquoi le bruit d'une cascade peut nous apaiser?
Alors ça a été très étudié en neurosciences. Il y a en particulier un article où on a présenté à des sujets des centaines de sons, on leur a demandé de les coter, agréables, désagréables, et puis on a fait de l'imagerie cérébrale pour mesurer une structure dans le cerveau qui est le système limbique et notamment l'amygdale, et on se rend compte qu'il y a naturellement, j'allais dire, certains sons désagréables. Alors parmi les sons, alors je vais commencer par les sons agréables, c'est les bruits d'eau, de cascade, c'est des choses comme ça, le bruit des feuilles, etc., l'eau qui boue. Et puis parmi les sons désagréables, eh bien, on va avoir la fameuse craie sur le tableau noir qui crisse, qui vous donne la chair de poule. probablement en ce moment. Et dans les bruits désagréables, il y a les pleurs du bébé. Oui. Pleurs du bébé, parce que, encore une fois, ça vous permet de c'est un son d'alerte. Quand vous, et puis, évidemment, si, les freins du TGV quand il rentre en gare, etc. Mais c'est profondément ancré dans le cerveau.
Écoutons Jessica, qui habite près de l'aéroport de Marseille-Marignane. C'était d'Envoyé spécial en 2020.
C'est un bruit sourd, c'est un bruit fort, c'est quand il passe près, ça fait peur, quoi.
Au-dessus de sa tête, accrochez-vous. 200 avions par jour en moyenne. Vous en avez déjà marre de ce bruit. Pas étonnant. Sur mon sonomètre, les décibels décollent, presque 85. Pourtant, selon les autorités sanitaires, le bruit devient gênant, désagréable, dès 65 décibels.
Vous confirmez, Jean-Luc Puel, 65, 70 décibels, ça devient un seuil inacceptable pour notre organisme et pour notre cerveau?
Oui, c'est-à-dire, d'une part, il y a la législation du travail à 80 décibels, qui est pas mal faite aujourd'hui. Et puis, il y a tous les bruits qui sont au-dessous de 80 décibels. Et c'est en particulier tous ces bruits gênants. Et quand on parlait de silence tout à l'heure, je dis toujours, moi, que le bruit est connoté. Il est connoté agréable ou désagréable. Vous pouvez très bien avoir 70 dB et entendre le ressac de l'océan parce que vous avez une maison en bord de mer et ça va vous apaiser. Vous allez bien dormir, etc. Mais si vous vivez près d'une autoroute avec la même intensité et même la même fréquence spectrale, c'est connoté négativement et ça va induire tout le stress dont on a parlé. D'ailleurs, les architectes ne s'y trompent pas. Hein. Ce qu'ils font très souvent, c'est qu'ils construisent des résidences avec des patios et à l'intérieur du patio, ils mettent des fontaines qui font des bruits d'eau agréables et puis des arbres qui fait avec les feuilles qui masquent ou qui s'insèrent dans ces bruits urbains.
Alors, on dénombre environ chaque année 10 000 décès prématurés en Europe liés au bruit. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui provoque ces décès prématurés, Jean-Luc Puel?
Les décès prématurés, ils sont liés à ce que je disais tout à l'heure, c'est le stress. On sait très bien que quand on travaille dans le bruit, notamment les enseignants se plaignent beaucoup de ça, quand on travaille dans le bruit, on rentre, on est fatigué. On a des problèmes de sommeil. On se réveille pas spécialement, mais on a les stades du sommeil qui sont perturbés. On se réveille fatigué. Et puis, on a toutes les maladies cardiovasculaires, hypertension, AVC, infarctus, etc.
Et pour aller dans votre sens, une étude montre que les riverains d'aéroports exposés au bruit de façon chronique libéraient davantage d'hormones du stress, comme le cortisol, vous l'avez dit, la noradrénaline, les catécholamines, le stress chronique qui peut entraîner, vous le confirmerez Baptiste Beaulieu, une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle. Et puis des études européennes ont montré que les personnes exposées à des nuisances sonores chroniques de plus de 50 décibels connaissaient donc davantage de cas d'hypertension, d'AVC ou de crise cardiaque.
Oui, c'est montré.
Oui, faut imaginer quelqu'un qui vous suit avec une petite cuillère et qui vous donne régulièrement des petits coups sur la tête comme ça. Alors la première fois, on dit arrête, la deuxième fois, on dit arrête, et puis quand ça dure comme ça toute la journée pendant des années, évidemment que ça génère un impact émotionnel. Et les impacts émotionnels, ça génère quoi? Ça génère la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et donc, hypertension artérielle, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébraux. C'est toute une cascade de risques cardiovasculaires qui se déclenche avec cette régularité, ce harcèlement, presque, on pourrait dire, qui est dû au bruit.
Je vous propose d'écouter la note vocale déposée par Pauline sur l'appli France Inter.
Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans, je vis à Reims. Je pense qu'on n'est pas du tout égaux tous face au bruit et moi malheureusement c'est quelque chose qui peut parfois me pourrir un petit peu la vie, notamment au travail. Je suis dans un open space et c'est pas toujours évident à gérer. J'ai cette sensation d'oppression, de malaise quand il y a vraiment trop de bruit autour de moi. Je n'arrive plus à me concentrer, c'est très compliqué. J'essaie de compenser ça en privilégiant vraiment des moments de silence chez moi, le matin et le soir, et je fais avec. Merci pour tout, en tout cas, pour tout ce que vous faites.
Alors Sébastien Boller, quel est l'impact du bruit sur notre concentration? Je pense à toutes les personnes qui travaillent comme Pauline en open space. Théoriquement, il existe une norme à ne pas dépasser dans ces open space, c'est entre 48 et 52 décibels. Hein.
Oui, et encore ça dépend des personnes, hein, parce que Pauline vient de nous le dire. Ça dépend du seuil de sensibilité acoustique, parce qu'on n'a pas tous les mêmes seuils de détection des bruits, et puis aussi quelque chose qu'on commence à quantifier, à mesurer en psychologie expérimentale, qui est la sensibilité, la réactivité émotionnelle aussi aux agressions, notamment sonores, ou sociales, des petites remarques qu'on peut recevoir à droite à gauche, et des personnes qui ont des seuils de sensibilité émotionnelle plus élevés que d'autres, et qui donc vont être plus perturbées, y compris par un environnement sonore de type open space. La base du mécanisme, c'est que arriver à rester concentré dans un milieu sonore, ça fait appel à des ressources cognitives, au fonctionnement d'un certain nombre de zones du cerveau, notamment à l'avant du cerveau, qui vont arriver à lutter pour rester focalisé, par exemple, sur un travail, sur un dossier, tout en filtrant tout ce qui peut être de l'ordre de la distraction ou de l'agression sonore. Et simplement, on n'a pas tous la même capacité de mobilisation de ces fonctions exécutives. Il y a des ressources d'énergie, des ressources de concentration qui vont s'épuiser plus ou moins vite d'une personne à l'autre. Et donc, c'est très important, en fait, de connaître les personnes avec qui on travaille, pour pouvoir distinguer ceux qui vont avoir des capacités de filtrage plus élevées, ceux qui vont avoir des seuils de sensibilité émotionnelle et sensorielle aussi plus élevés, et qu'il va falloir ménager particulièrement. On commence à s'en rendre compte. Il y a des premières échelles d'évaluation de ça qui sont en train être validé en France.
Et une étude de l'INRS, hein, l'Institut de Recherche et de Sécurité des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles, indique une baisse significative des performances des salariés auxquels on avait donné une liste de mots à mémoriser dans un environnement sonore de 55 décibels. Jean-Luc Pell, comment aider tous ceux qui travaillent dans des open space bruyants? Comment peuvent-ils échapper à cette pollution sonore permanente?
Oui, outre les tous les équipements acoustiques qu'on connaît, des murs non réverbérants, des plaques acoustiques, etc. Je pense que ce qu'il faut faire en tout, c'est repenser le modèle d'open space. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur modèle et le modèle le plus rentable pour travailler, pour se concentrer. À la JNA, on avait fait
Journée nationale de l'audition.
La Journée nationale de l'audition, on avait fait une étude dans une entreprise que je nommerai pas, et on s'était rendu compte que le simple fait de travailler en open space faisait que on augmente la perte de temps de 30 minutes tous les jours. Alors imaginez-vous 30 minutes perdues tous les jours, ça représente des milliards à la fin de l'année.
Charles Wright.
Oui, non, je voulais juste réagir sur certains bruits qui ne sont pas des bruits, qui ne font pas de bruit, et d'autres qui sont des assassinats du silence. C'est juste pour ajouter, il me semble que l'ennemi du silence, c'est pas seulement le bruit, justement. Et la nouveauté de la situation contemporaine, c'est peut-être que c'est la connexion permanente. Je crois que c'est ça qui est l'ennemi du silence. L'espèce d'encombrement mental, l'incessant flux d'images, et aussi le fait que le bruit n'est pas que sonore, il peut être visuel. Les agglomérations urbaines avec leurs vitrines criardes, les panneaux publicitaires sont des lieux de vacarme aussi. Donc en fait c'est ça, on baigne dans un encombrement mental incessant, et ça c'est usant à mon avis aussi.
Et on pourrait même parler de bruit visuel. Dans quelques instants, on évoquera les bienfaits du silence qui régénère notre cerveau. En attendant, on écoute Depeche Mode, un Enjoy the Silence de circonstance.
Right through me.
Enjoy the Silence, interprété par Depeche Mode.
France Inter.
La dernière fois, il était 2h du matin, trop de silence dans mon quartier, j'arrivais pas à dormir.
Grand bien vous fasse.
C'est pas bientôt fini, silence. Il y en a qui essaient de dormir ici, hein. Je travaille devant moi.
Ali Rébéi.
10h33 et on s'intéresse ce matin aux méfaits du bruit sur notre santé et aux bienfaits du silence sur notre cerveau. Nous attendons vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli France Inter. Évidemment, une exposition sonore élevée entame notre capital auditif. Jean-Luc Puel, je rappelle que vous êtes neuroscientifique. On peut prendre des coups de son comme on prend des coups de soleil?
Ah oui, c'est la comparaison est vraiment super, parce que le son, c'est comme le soleil. Quand le soleil est très fort, vous avez un coup de soleil. Quand le son est très fort, vous avez une surdité. Mais quand le son est moins fort et que vous êtes exposé longtemps, ben vous avez aussi une surdité. Je veux dire, ça, c'est un peu, c'est le problème des ados qui ont ou vous qui portez un casque
sur une oreille
toute la journée. Certains ados d'ailleurs s'endorment avec un casque sur les oreilles et passe des heures et des heures. Et évidemment, ça, ça entraîne des surdités. Hein.
Emmanuel Thibier, je rappelle que vous êtes acousticien. Que se passe-t-il concrètement quand on prend ces coups de son? Ce sont les cellules sciées et les fibres auditives qui sont altérées, c'est ça, par ces coups de son? C'est ça?
Alors,
pour le dire vite. Hein.
Oui, il y a des cellules dans l'oreille interne qui peuvent être détruites et elles ont du mal à repousser derrière. Et puis on a une surdité qui peut être temporaire en fonction du niveau d'exposition du coup du bruit, en effet.
Jean-Luc Puel.
Juste aujourd'hui, ce qu'on a montré, c'est que même en cas de surdité temporaire, vous avez des pertes de neurones. Donc vous pouvez très bien avoir une surdité temporaire, un audiogramme qui revient à la normale, et vous avez perdu 50% des fibres du nerf auditif. Alors si vous avez perdu 50% des fibres du nerf auditif, vous avez des difficultés dans le bruit, et parfois, malheureusement, des acouphènes.
Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, les adolescents et les jeunes adultes sont massivement menacés de surdité précoce. Environ, c'est un chiffre absolument hallucinant, environ 1 milliard de jeunes et d'ados seraient concernés. Alors qu'en règle générale, les premiers signes de surdité interviennent naturellement vers l'âge de 60-65 ans. Jean-Luc Puel.
Ben oui, quand vous êtes exposé au bruit, vous fragilisez votre cochlée, votre oreille interne, et comme elle est fragile, elle va vieillir précocement, comme le coup de soleil. Quand vous prenez les coups de soleil à répétition, vous avez un vieillissement de la peau précoce.
Il y a une durée d'exposition qui s'avère dangereuse. Au bout de combien de temps on peut, les jeunes et les moins jeunes également, qui ont des écouteurs sur les oreilles, peuvent connaître ces coups de son?
Ben, je crois que notre ami acousticien me répondrait mieux que moi. Mais je vous disais, il y a vraiment un rapport entre le niveau et la durée. Donc le niveau pour la législation du travail, c'est 80 décibels. Et puis si vous doublez la pression, ça fait 83 décibels. Et là, vous ne pouvez pas être exposé plus de 4 heures, 86, 2 heures, etc. Donc ça, c'est la législation du travail. Et puis, des choses qu'on a moins évaluées. C'est au-dessous de 80 décibels quand vous êtes exposé à plus de 8 heures par jour.
Emmanuel Thibier, votre recommandation en tant qu'acousticien, quand on a ses écouteurs sur les oreilles, pas plus de 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes?
Non, mais je ferai référence plutôt à la législation du travail, qui comme le disait comme disait Jean-Luc, fixe à 80 décibels, mais pour 8 heures par jour. Donc 8 heures par jour, 5 jours par semaine, etc. X jours par an. Et on sait qu'au-delà de ce seuil, l'audition du travailleur est altérée et derrière, ça a un coût pour la société, ça a un coût parce que les travailleurs doivent porter des prothèses auditives pour rétablir leur audition, et ça, ça a un coût pour la sécurité sociale et pour la société en général. Donc pas de recommandation pour les gens qui écoutent du bruit de la musique sur écouteurs, sauf pas trop fort et pas trop longtemps.
Bonjour Emilia, bienvenue.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question, Emilia ?
Eh bien, écoutez, je me suis permis d'appeler quand vous avez évoqué donc le sujet de l'émission, la pollution sonore, parce que je me demandais si vous alliez évoquer le problème des acouphènes, qui nous soumettent à une pollution sonore énorme, mais que l'on ne peut pas ni déclencher, ni arrêter, ni baisser, ni monter. Et voilà. Et je me demandais quels sont les effets sur la santé.
Vous êtes atteinte d'acouphènes vous-même, Emilia ?
Oui, absolument. Il y a déjà pas mal d'années. D'ailleurs, je suis très étonnée de le vivre, on va dire, aussi bien. Mon mari en était atteint déjà depuis plusieurs années. Je me disais, mais c'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre avec un bruit permanent. J'en ignorais exactement la teneur. Mais bon, je me disais, on ne peut pas vivre avec du bruit en permanence comme ça en soi. Et puis, petit à petit, c'est venu. Je ne me souviens d'ailleurs pas comment ça a commencé. Voilà, tout d'un coup, j'ai réalisé que je vivais avec ce que je le compare un petit peu au cryptage de Canal+. Vous savez, quand c'est le bruit le plus régulier.
C'est ce que vous entendez, Emilia ? Vous entendez ce cryptage de Canal+ d'il y a quelques années, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est ce que j'entends en permanence. Pendant que je vous parle, si je ne me focalise pas vraiment sur ce que je vous dis et que j'essaye que mon cerveau ratisse un petit peu plus large, eh bien, ils sont là. Voilà, j'ai d'un côté ce petit cryptage et puis notre conversation. Et ça, c'est jour et nuit, plus ou moins fort, mais quand c'est faible, c'est toujours important. Mais ça peut être très fort. J'ai la chance, entre guillemets, puis je touche du bois pour l'instant, de ne pas réellement en souffrir. Je m'y suis habituée, puis surtout, j'essaye de ne pas y penser. Je ne me focalise pas dessus, voilà, et j'y arrive. Mais j'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui en souffrent terriblement, et voilà, ça devient un problème, c'est invivable, ça peut devenir invivable.
Jean-Luc Puel, que sait-on des origines des acouphènes et comment les soigne-t-on ?
D'une part, c'est assez compliqué les acouphènes, hein, mais ce qu'on sait, c'est que dans plus de 90% des cas, ça relève d'une souffrance de l'oreille interne. Ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Probablement, quand l'oreille interne est abîmée, on a une suractivité du cerveau pour compenser les entrées sensorielles. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça va stimuler tout le système limbique, etc. Et ce qu'on a démontré clairement, c'est que les acouphènes ne relèvent pas d'un état anxieux. Mais par contre, on a démontré que les acouphènes rendaient anxieux, et donc il pouvait se créer comme ça un cercle vicieux qui faisait que plus on était anxieux, moins on supportait les acouphènes, moins on les supportait, plus on est focalisé. Mais ça peut être vraiment dramatique, hein. Il y a des gens qui se suicident, hein. C'est terrible. Baptiste, je veux dire, c'est pas un sujet anodin. Hein.
Baptiste Beaulieu, comment soigner les acouphènes ?
Oui, c'est des patients qu'on accompagne au cabinet, et on voit vraiment leur qualité de vie, franchement. Dégradé. Alors, il faut dire les choses, au niveau thérapeutique, on n'a pas non plus 36 000 mesures à leur proposer. La principale, c'est le prendre le plus tôt possible. Et puis, au début, en tout cas, essayer des traitements à base d'anti-inflammatoires stéroïdiens, des corticoïdes, quoi.
Merci beaucoup, Emilia, de nous avoir appelé. Jean-Luc Puel.
Et puis, ce qu'on leur conseille en général, c'est, alors contrairement à l'émission, c'est de ne pas vivre dans le silence. Hein, et généralement, ce qu'on leur conseille, c'est d'être appareillé, parce que le simple fait d'être appareillé masque l'acouphène, et puis surtout détourne leur attention des acouphènes.
Alors, on a évoqué les méfaits du bruit sur notre santé. Évoquons maintenant les vertus du silence. Charles Wright, je rappelle que vous êtes l'auteur du Chemin des Estives. Vous avez eu la chance de vous immerger dans le silence du Massif Central. Rappelez-nous les effets bénéfiques de ce silence sur votre psychisme, sur votre corps, sur votre âme.
Bah, écoutez, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il y a une parole du silence, paradoxalement. C'est-à-dire que le silence parle. Quand on se tait, on se rend compte que, voilà, il y a quelque chose qui grésille dans le silence. Il y a quelque chose qui résonne. Voilà. Et en fait, c'est comme si le silence, il a une intensité. Il est vivant. C'est pas du vide. C'est pas du néant. C'est une présence, en fait. C'est pour ça qu'on n'est jamais seul quand on est dans le silence. Et puis c'est aussi quelque chose qui permet la communion avec les autres. Ça, les amoureux le savent. Moins l'amour est sûr de lui, plus on a besoin de s'épancher, de blablater. Et au contraire, qui n'a pas été touché par ces vieux couples qui se disent plus grand chose, qui se contentent de se tenir la main. Le silence, je crois que c'est le couronnement de l'amour, c'est le couronnement de l'amitié, c'est le préalable de toute relation authentique avec les autres, mais aussi avec la nature.
Sébastien Boller, comment expliquer le bien-être immédiat que procure le silence? Plusieurs recherches scientifiques ont été menées. Je pense par exemple aux recherches de l'équipe de Luciano Bernardi et de son équipe de l'université de Pavie en Italie. Ils ont voulu savoir quel type de musique était bénéfique pour le système cardiovasculaire. Ils ont fait écouter à des volontaires 6 styles de musique, des Red Hot Chili Peppers à Beethoven. Sébastien Boller.
Oui, alors je crois que dans cette expérience, ils ont constaté que certaines musiques avaient un effet apaisant, mais que en ayant une condition contrôle de comparaison avec les musiques, ils avaient une condition de silence total aussi. Hein.
Je précise qu'ils ont inséré des plages de silence dans chacun des morceaux, et ils ont mesuré la pression sanguine, la respiration et le rythme cardiaque des intervenants.
Voilà, et que les plages de silence ont un effet en fait très spectaculaire. Voilà. Et non seulement sur ces paramètres-là, mais ça a été fait également dans des expériences animales sur la croissance des neurones. Et là, il est apparu très clairement que la seule condition dans laquelle véritablement des nouveaux neurones étaient produits, c'était pendant les plages de silence. Ça, c'était assez inattendu, parce qu'on sait que la musique fait du bien. C'est paradoxal, parce que c'est du son, hein. C'est pas du silence, mais ce qui est très important avec la musique, c'est que c'est un son qui est périodique et que ce qui constitue un système d'alerte pour revenir en fait aux conditions de vie de nos ancêtres au paléolithique, c'est toute déviation par rapport à une vie bien réglée, un événement inattendu est un événement qui doit alerter parce qu'il peut signaler un danger potentiel. Et donc, ce qui active le système d'alerte au niveau auditif, ce sont les sons qui sont inattendus, qui donc sont hors périodicité. Donc, quand vous êtes dans un bruit qui émet des sons de façon chaotique, c'est là que vous êtes stressé. Et l'antidote, à contrario, c'est la musique qui, elle, produit une stimulation sonore périodique. Donc, c'est pour ça, souvent aussi, qu'on masque le bruit de nos vies survitaminées et dans les transports, par exemple, avec des casques qui mettre de la musique, parce que c'est une façon d'avoir un bruit qui est déstressant. Mais évidemment, on pousse le son. Pour revenir juste au silence, donc il y avait production de nouveaux neurones, et également, au moment où le son s'arrête, de façon très brusque, il y a d'autres expériences qui montraient, je ne sais pas si celle-là auquel vous pensiez, qu'il y a des ensembles de synapses, donc de connexions entre neurones, qui d'un seul coup, qui étaient silencieux, d'un seul coup s'éveillent. Donc c'est comme si on enlève le bruit, on réveille les synapses, enfin certaines synapses. Donc ça attire notre attention sur le fait que le cerveau a deux modes de fonctionnement. Il a un ensemble de circuits, de neurones qui sont dévolus au traitement d'informations rentrantes, d'input sensoriel, et d'autres qui attendent le moment où il n'y aura plus d'input sensoriel pour se réveiller. Et ça ouvre la dimension spirituelle de la production endogène d'images, de pensées, de rêveries, le monde intérieur qui fait peut-être partie de la présence du silence, puisque c'est la présence de soi aussi qui surgit à ce moment-là, mais une présence de soi qui peut être déstabilisante, parce que le plus souvent elle est étouffée par un monde qui nous propose des stimulations permanentes, et quand elle surgit, on peut avoir peur et on peut avoir envie de la chasser.
Jean-Luc Puel.
Oui, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on vit tous les soirs au moment où on s'endort. Dès qu'on est dans le silence, qu'on s'endort, on a ce cerveau qui produit tout un tas de pensées, plus ou moins cohérentes d'ailleurs, plus ou moins négatives d'ailleurs, mais c'est effectivement vrai, dès qu'il n'y a plus d'entrée sensorielle, le cerveau se met
on
à
on peut faire l'expérience, hein, quand on coupe le son de la télé, on ressent immédiatement, quand on l'a écouté pendant une heure ou deux, on ressent immédiatement un bienfait.
Oui.
C'est corporel.
Oui, on sait maintenant que ça correspond à l'activation d'un certain nombre de zones du cerveau qui ont été découvertes il y a peut-être une dizaine d'années. Ça a complètement chamboulé le monde des recherches en neurosciences. Et on a découvert aussi que ces zones du cerveau, la plupart du temps, quand elles s'activent, c'est souvent vécu comme désagréable. On n'est pas familier de ça et on préfère faire autre chose. Il y avait une expérience qui a été publiée dans le journal Science il y a 5 ans où on mettait des gens devant une table, on leur disait soit vous restez pendant un quart d'heure sans rien faire, soit vous pouvez jouer avec un boîtier, vous pouvez triturer le boîtier, mais il vous enverra des chocs électriques de façon aléatoire.
Et les gens préféraient...
Ils préféraient encore être dans l'action plutôt que simplement face à eux-mêmes. Ouais.
10h48, allez, il est temps de retrouver, on est très en retard, la chronique de notre médecin et romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Le bienfaisant Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, il y a ce mystère. Ce mystère qui se reproduit à l'identique année après année. Comment se fait-il que les patients les plus précaires, ceux qui n'ont rien, quand arrivent les fêtes, débarquent au cabinet avec des chocolats, des dattes, des bouteilles de martini, des bouteilles de whisky pour nous remercier d'avoir pris soin d'eux pendant l'année? Alors que les patients les plus blindés, bizarrement, ils ont toujours piscine, on les voit pas. Pas de chocolat, pas de bouteille de martini, pas de bouteille de whisky, pas de date. J'ai voulu creuser un peu plus en avant et surtout j'ai voulu comprendre si mon cas était reproductible chez d'autres professionnels ou si je tirais pas de mon expérience personnelle une généralité un peu abusive. Et des tas de personnes m'ont répondu que, a priori, c'était pareil dans l'éducation nationale, mais aussi dans les professions de service et de soins à la personne. Ainsi, une lectrice me répond « Je suis femme de ménage pour personnes âgées ou à mobilité réduite, et c'est pareil. Ceux qui sont blindés ne m'offrent jamais rien. Les gens qui comptent leurs sous m'achètent régulièrement des fruits, des chocolats, me donnent leurs soi-disant vieux vêtements, etc. Toujours avec un grand sourire, les mains et le cœur ouverts. » Un autre lecteur m'a répondu « Si les précaires donnaient moins, ils seraient moins précaires. » Alors, cette explication est un peu simpliste, mais pourquoi pas? Moi, ce qui me touche, c'est que je manque de rien dans la vie. Les patients le savent. Je suis médecin, je suis également romancier, les bouquins marchent bien. Fondamentalement, ils savent que je n'ai pas besoin de ça. Pourtant, ils prennent sur l'argent qu'ils n'ont pas pour m'offrir des choses que j'ai ou que je pourrais m'acheter facilement. Et je crois qu'il faut être digne de ça, digne de cette confiance-là, parce que ça compte. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça compte. J'espère ne jamais les décevoir, ne pas vieillir trop mal et rester le médecin à qui on veut offrir, même si on n'a rien, des chocolats ou des dattes ou une petite bouteille de martini. Alors, je sais que c'est pas bien d'offrir les cadeaux qu'on nous a offerts, qu'un cadeau, ça ne s'offre pas à quelqu'un d'autre, une fois qu'on vous l'a donné. Pourtant, ça m'est arrivé, une famille précaire consulte, j'ai la boîte de chocolat encore fermée à côté de moi, ben je la leur donne. Parce qu'il faut que les choses circulent, que rien ne soit figé dans cette société. On ne nous enterre pas avec les valises de billets, ni avec les boîtes de chocolat. J'ai une famille de patients qui sont originaires d'Indonésie, et vous savez comment on dit merci en indonésien, Alain?
Absolument pas.
On dit terima kasih. Littéralement, ça signifie recevoir donné. Et vous savez comment on répond à ce recevoir donné, l'équivalent de notre avec plaisir ou de rien? On dit sama sama. Ça signifie littéralement avec avec. Et donc, ensemble. La réciprocité du don, Ali, comme sa circulation, c'est ça. C'est la meilleure manière d'être ensemble.
Baptiste Beaulieu, et merci pour vos chocolatines, votre cadeau du lundi au bureau. Et on peut écouter, réécouter votre chronique sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, des solutions pour retrouver le silence chez soi. On écoute Iliona, si tu m'aimes demain.
Si tu m'aimes demain, on sera des stars 70-80 qui se cachent leurs gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur nos jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris la semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, la télévision, ils passeront nos chansons, fausse poésie, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux, dommage, j'y avais pas. Et si tu m'aimes demain, je ferai un tas de photos dans les chambres d'hôtel. Toi, tu me peindras sur le dos. Si tu m'aimes demain, dans les soirées chics, les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques. Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage, le temps d'un été, loin des journaux qui crieront scandale. Si tu m'aimes demain, dans un photomaton, on laissera de gros bisous, incognito, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux, dommage, j'avais pas mieux, devoir se dire adieu, on tournait pas heureux, se retrouver comme de vieux. Faut que si tu m'aimes, pas seulement si tu veux.
Ça vous plaît beaucoup ça, Baptiste Beaulieu, hein ?
Oui, j'ai trouvé ça magnifique.
Il y en a si tu m'aimes demain.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi sur France Inter.
10h54 et on s'intéresse ce matin aux méfaits du bruit sur notre santé et aux bienfaits du silence sur notre cerveau. Alors Charles Wright, le silence c'est d'or et nous avons des trésors à portée de main. Quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs qui recherchent le silence en dépit de la pollution sonore qui nous entoure quand on habite notamment dans les villes?
Oui, c'est difficile de donner des conseils. Je suis pas sûr que le silence se fabrique, vous savez, qu'il faille produire quelque chose. Je crois qu'il est toujours là, finalement, le silence. Il est intérieur à toute chose et il s'agit pas tellement de le fabriquer, de le créer, que de le laisser un peu remonter. Et en même temps, c'est vrai que, à mon avis, c'est bon de régulièrement se dégager un peu de l'éphémère, se couper un peu. Vous savez, j'aime bien donner l'exemple du soleil, de la lune, de la mer qui régulièrement se retire comme ça pour pouvoir mieux revenir. Peut-être qu'on aurait profit dans nos existences à se caler un peu sur ces grandes majestés. Donc, de temps en temps, couper les médias, faudrait pas le dire sur France Inter, mais quand on coupe avec le vacarme, quand on éteint son téléphone, il y a quelque chose en soi qui se dilate. Il y a quelque chose qui s'allège. Et en même temps, c'est ça aussi que j'ai envie de dire, le silence, à mon avis, le vrai silence, il est intérieur. Et quand on l'a trouvé, eh ben, il nous garde, et y compris dans le tapage. Et je vais vous dire, je vais vous faire une confidence qui est pas... peu importe, mais il m'arrive de trouver le silence presque aussi bien dans le métro parisien que dans le trou ardéchois où je vis la plupart du temps, parce que je crois que on peut se promener dans le bruit installé dans son cloître intérieur, si vous voulez.
Jean-Luc Puel, je rappelle que vous êtes neuroscientifique et président de la Journée nationale de l'audition. Quel conseil pour échapper au bruit, en sachant que c'est un problème majeur de politique publique, les politiques ne s'emparent pas suffisamment de ce problème de la pollution sonore. À notre niveau individuel, que peut-on faire ?
Bah déjà, à notre niveau individuel, on peut se réserver des plages de, que j'appelle moi de repos cochléaire ou de silence. Quand vous avez écouté la radio ou vos écouteurs, etc., vous pouvez vous accorder autant de temps dans le silence. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il commence aujourd'hui à y avoir des expériences intéressantes dans les villes où on crée, notamment au Japon, ils font beaucoup ça, ils créent des zones de repos sonore dans les villes. Je crois que c'est une belle expérience à mettre en œuvre. Et puis, il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, j'aimerais quand même le souligner. Aujourd'hui, il y a des radars sonores. Alors ça paraît un peu répressif, mais franchement, quand vous avez une moto à 3h du matin qui réveille des millions de personnes dans Paris, je crois que ça vaut le coup d'avoir des radars sonores.
Emmanuel Thibier, je rappelle que vous êtes acousticien. C'est un problème, je le disais, de politique publique majeure. Que peut-on faire à son niveau individuel?
Euh,
moi, je travaille plutôt pour la du côté des politiques publiques. Mmh. Hein, donc, on a conduit une étude récemment sur le coût social du bruit, hein, mmh. alors, du bruit dans l'environnement, du bruit au milieu du travail, du bruit de voisinage, qui chiffre à plus de 147 milliards d'euros par an, hein, ce coût social. Donc, juste derrière, vous l'avez dit, Ali, au début d'émission, hein, juste derrière la pollution atmosphérique, la qualité de l'air. Mmh. À titre individuel, moi, j'ai envie de chacun peut faire un petit peu, moduler un peu son propre niveau sonore, réduire un peu le bruit, bah, surtout si on a des voisins mmh. ou que ce soit au bureau ou chez soi qui sont sensibles au bruit. Mmh. Chacun peut faire un petit peu.
Sébastien Boller, la méditation peut-être.
Oui, alors moi je suis très méditative, sensible à ce qu'a dit Charles Wright, je pense que tout est là. C'est-à-dire que le silence si on regarde bien, il y en a tout le temps. Mais observez-vous, Ali, parfois on a du silence et on n'arrive pas à le recevoir. On n'arrive pas à l'entendre. Moi j'essaye parfois, je dis, allez, je vais me faire un moment de silence. Et il y a un truc en moi qui fait que je ne l'entends pas. Il y a une agitation. Et comment faire pour faire baisser cette agitation? Moi j'ai beaucoup aimé la conversation que j'ai eue pour le dossier avec Michel Levenquienne, qui est un directeur de recherche INSERM en neurosciences, qui a écrit un livre sur le silence, qui parle de silence attentionnel. C'est-à-dire que même quand tout s'arrête, notre cerveau, lui, continue à tourner, à traiter des stimulations, des soucis qu'il a eu de son travail. Il continue parce qu'il est fait pour ça, c'est des mécanismes d'apprentissage qui tournent en boucle. Et donc, il faut savoir qu'il fonctionne comme ça et activer une partie du système nerveux autonome, qui est le système parasympathique, par des exercices de respiration,
de
par des rythmes de vie, par de la méditation, pour savoir préparer des moments où on peut entendre le silence.
Merci à tous. Merci Jean-Luc Puel, Emmanuel Thibier. Merci Charles Wright. Je recommande Le chemin des estives. C'est publié chez Flammarion. Merci Sébastien Boller. Le numéro de Cerveau et Psycho consacré au silence est encore disponible en kiosque. Demain, on s'intéresse à cette petite voix intérieure qui dialogue avec nous tout au long de la journée. Ce sera l'occasion de s'intéresser à notre vie intérieure et ce sera d'une certaine façon le prolongement de l'émission de ce matin.
Grand bien vous fasse avec Extra Classe, le podcast à l'écoute de l'école et des enseignants. Chaque mercredi sur extraclasse.reseau-canopée.fr ou sur votre appli de podcast favori.